Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour 2 heures d'infos. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. 18h sur Europe 1. Au sommaire, et vous êtes-vous organisé pour mardi prochain? Les conditions de trafic dans un instant. Et vos systèmes D pour pouvoir circuler. Nous inviterons aussi le vice-président de la FNOT. Nous interrogerons Michel Kidor sur ce fameux service minimum de transport qui n'a jamais fonctionné dans le pays malgré une loi qui existe bien depuis 2007. Journée de mobilisation contre la réforme des retraites, bien sûr. Philippe Martinez de la CGT l'a bien rappelé en milieu de semaine dernière. Si mobilisation il y a, c'est bien la faute du gouvernement. Le gouvernement qui ne cédera pas sur l'âge de départ à 64 ans. Elisabeth Borne l'a redit ce matin, nous l'entendrons et nous inviterons à 18h15 le député insoumis Carlos Martins Bilongo. Accalmie au Proche-Orient, même si le dialogue reste crispé entre Israéliens et Palestiniens au lendemain de 2 attaques qui ont fait 7 morts côté israélien. Le pape François, lors de l'Angélus ce dimanche à Rome, appelle à ne pas entrer dans une spirale de la mort. Nous entendrons le Saint-Père. Djokovic superstar, une victoire et tout un symbole pour le Serbe à l'Open d'Australie. Ce même Open, souvenez-vous, qui lui avait demandé de décamper en raison de sa non-vaccination. Il s'impose face à un autre immense champion, le grec Tsitsipas. Le temps, Valérie Darmon.
Un petit peu de neige sur le nord-est jusqu'en plaine. Pluie et neige mêlée près de Reims. De la bruine entre la pointe Finistère et le bassin parisien. Et du soleil en allant vers la Méditerranée.
18h30, ça fait débat. Frédéric Dabi de l'IFOP face à l'avocat Jean-Yves Le Borne. 19h15, La Montagne. Le film qu'il faut aller voir si vous voulez couper tout et vous faire happer par ce monde merveilleux et enneigé. Nous serons avec l'acteur principal et réalisateur Thomas Salvador. 19h30, Panorama. Alors que les troupes russes avancent pour reculer encore plus dans le Donbass, que les armées occidentales s'allient pour envoyer des chars lourds. Quelle évolution de cette guerre en Ukraine qui va tristement fêter ses 1 an. Désormais, certains disent que les chars russes vont aller jusqu'à la frontière polonaise. L'ambassadeur de Pologne, Jan-Emeric Rostiszewski, ce soir avec l'amiral Jean-Louis Vichot du Centre d'études stratégiques de la marine, anciennement missionné à l'OTAN. Le gouvernement en convient lui aussi, mardi prochain, ce sera compliqué. Compliqué de circuler, compliqué d'aller et venir. Alors nous allons faire le point très précisément sur ce qui vous attend, sur vos alternatives. Si vous décidez de vous déplacer, car oui, comme le 19 janvier dernier, beaucoup d'entre vous opteront pour le télétravail. Inès Zegloul, d'abord, quelles sont les prévisions de trafic et les fermetures envisagées ?
Alors, on sait déjà qu'une dizaine de mairies seront fermées à Paris, par exemple, ou encore dans l'Indre ou le Pas-de-Calais. Côté transport, trafic très perturbé, c'est le mot d'ordre mardi prochain. D'abord, la SNCF prévoit 1 train sur 3 en moyenne pour les TGV Inouï et Ouigo. Pas de circulation pour les intercités de jour et de nuit, à l'exception de quelques trajets ralliant Paris-Clermont, Paris-Toulouse et Bordeaux-Marseille. Tout aussi compliqué pour se déplacer en Île-de-France, le RER A et B ne circuleront qu'une fois sur 3 et 1 train sur 10 est à prévoir sur les lignes C et D. Du côté de la RATP, seules les rames automatiques 1 et 14 rouleront normalement. Pour le reste, les métros seront ouverts seulement aux heures de pointe et avec un trafic ralenti. Et concernant l'aviation, la Direction Générale de l'Aviation Civile demande l'annulation d'un vol sur 5 depuis l'aéroport d'Orly.
Du coup, comment est-ce que les Français s'organisent ?
Eh bien Pierre, après jeudi noir, mardi noir, il semblerait que cette journée de mobilisation soit un copier-coller de ce qui s'est déjà passé il y a plus d'une semaine. Tout le monde est obligé de s'adapter. Hein. Ariane, par exemple, a trouvé le bon compromis entre garder ses enfants et aller au bureau.
J'ai travaillé, si c'est comme la dernière fois, mais j'ai pas pu travailler. Avec 2 enfants à la maison, la crèche était fermée et la classe de ma grande était fermée aussi.
Mais tout le monde ne peut pas télétravailler, alors certains iront à pied ou à vélo. Jeanne se déplace habituellement en métro, mais pas le choix. Mardi, il faudra prévoir large.
On va prendre un bus, on va se débrouiller, on n'a pas le choix, pas de transport. Ça va être très compliqué, on va partir plutôt une bonne heure avant. Sachant que je mets 45 minutes pour venir de mon travail à chez moi, donc 1h45 quoi.
Attention en revanche aux services de taxi et VTC, parfois pris d'assaut plusieurs heures avant le jour J. Des complications que redoute Paul, patron d'une école de danse. Selon lui, cette nouvelle mobilisation est très pénalisante.
Mes profs vont pas avoir d'élèves et donc je vais devoir reporter les cours parce qu'ils sont indépendants et qu'ils n'ont pas la chance de se permettre de faire grève. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que qui est pénalisé, c'est le peuple. Et particulièrement le peuple qui travaille de façon indépendante. On vit dans des mondes parallèles en fait.
En revanche, côté covoiturage, bonne nouvelle pour les franciliens. Île-de-France Mobilité prévoit l'indemnisation de vos trajets partagés. Vous n'aurez rien à débourser si vous passez donc par les applications Caros, Klaxit et Blablacar Daily.
Merci beaucoup pour ce point complet, Inès Zegloul. Bonsoir, Michel Kidor.
Bonsoir.
Vous êtes le vice-président de l'AFNOT, la Fédération des usagers des transports. On le voit, les Français s'organisent comme ils peuvent. Ils s'interrogent aussi sur l'inefficacité de cette loi de 2007, loi qui prévoit pourtant un service minimum dans les transports, mais qui n'a qu'une applicabilité très faible en fait.
Oui, très faible. Pour être précis, ce n'est pas la loi sur le service minimum, mais une loi sur le service garanti.
Bon.
C'est un petit,
ça,
une petite
ça veut dire beaucoup de
utile.
Choses. Ça veut dire beaucoup
ça
de choses.
Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'aussi, je remarque, je viens d'entendre, j'ai eu un œil sur le trafic SNCF. Lui, il est effectivement extrêmement perturbé, que ce soit en région, en Île-de-France ou au national et pour les TER. En revanche, pour la RATP, je note quand même qu'il y a un certain nombre de lignes qui vont circuler à effectif réduit, un métro sur deux, un métro sur trois, aux heures de pointe. Je rappelle, les heures de pointe, c'est de 7h à 9h30 et de 16h30 à 19h30. Donc c'est un peu nous ce qu'on réclame quelque part, c'est que, au moins pour les gens qui sont obligés de travailler, qui ne peuvent pas télétravailler depuis chez eux, ce qui est effectivement la bonne solution, ils ont au moins la certitude de pouvoir aller travailler le matin et d'en revenir en fin d'après-midi. C'est déjà quelque chose qui pour nous semble positif. Je note que la ligne de métro numéro 2 va fonctionner avec un métro sur deux de 5h30 à 20h. Donc c'est pas complètement paralysé en métro. En revanche, en ferroviaire, on est encore dans un blocage extrêmement fort.
Oui.
Deux TER sur 10 en région. Et au niveau du Transilien, c'est pas génial. Je note que sur une bonne partie des lignes, il y a un train sur 10 en Île-de-France. Donc ça veut dire intransportable, infréquentable. Et nous, c'est aussi un de nos soucis. C'est que dans ces cas-là, on a des bousculades sur les quais, des bousculades des gens pour monter dans les voitures. Et là, ça peut entraîner des accidents.
Mais tout
et
ça
là,
pour aller aussi, bosser, hein, faut quand même le rappeler. Tout ça pour aller travailler.
Oui, et les gens, notamment les gens qui se lèvent tôt pour gagner plus ou moins beaucoup, d'ailleurs, sont les premiers pénalisés, c'est ce que disait un de vos auditeurs tout de suite. Pour aller travailler, parce que pour des tas de raisons, ils veulent y aller ou ils sont obligés d'y aller. Ça, c'est nous, on a. Mais je note que pour ces gens-là qui sont contraints, ça va être assez épouvantable. Et je crains que ça s'inscrive dans la durée, puisque j'ai entendu qu'il y a des préavis pour les 7 et 8 pour commencer.
Oui, et ensuite, pour les vacances d'hiver, sans doute, puisqu'on en parle déjà. Michel Kidor, juste pour revenir sur cette idée de service minimum ou service garanti, puisqu'effectivement on n'a toujours pas réglé cette heure de service minimum, on avance le droit de grève, qui est un droit constitutionnel. D'autres disent, oui, mais le droit d'aller et venir est un droit constitutionnel aussi. Comment ça se passe dans les autres pays? Est-ce qu'on a le droit, dans certains autres pays, puisque vous êtes également représentant pour des pays européens, des compagnies de transport peuvent engager, en fait, des chauffeurs pour la journée de grève et ce n'est pas permis en France? C'est comme ça que ça marche?
Oui, il y a certains pays, on a beaucoup parlé lors des grèves qui ont lieu au moment de Noël, du cas italien, où il y a un certain nombre de périodes de vacances très ciblées, c'est pas toutes les vacances, chaque fois qu'il y en a, c'est quelques périodes de vacances très ciblées, où les transports doivent circuler, que ce soit aussi bien les trains que le métro. À Milan, le métro, il circule aux heures de pointe, l'Italie est un pays, c'est une législation qui existe depuis très longtemps, et l'Italie n'est pas un pays particulièrement réactionnaire, où les syndicats n'a aucun pouvoir. Je sais que l'Espagne aussi a des dispositions dans ce sens-là. En Allemagne, ce sont des accords locaux, mais pour avoir vécu quelques grèves des chemins de fer en Allemagne, on peut quand même se déplacer de manière relativement confortable. La France est un pays c'est un cas particulier. La Belgique, elle aussi, quand les chemins de fer font grève en Belgique, vraiment le pays est paralysé, là aussi, hein, ça c'est clair. Mais la France, on a un souci, on est un pays très étendu, avec des besoins de transport importants, une économie très centralisée, donc les mouvements de et vers Paris sont essentiels à l'économie, pour ne pas parler des transports régionaux qui sont nécessaires pour ceux qui travaillent, qui vont à l'université ou au lycée. Donc on est dans un domaine qui là est du service public et qu'il faut quand même ménager pour les gens qui ne peuvent pas faire autrement et qui sont coincés, quelle que soit leur opinion sur la grève.
Merci beaucoup Michel Kidor, vice-président de la AFNOT, merci d'avoir été en direct avec nous. Côté politique, la majorité a passé le week-end à expliquer le bien fondé de sa réforme. Une chose est certaine, l'âge de départ n'est pas négociable. Écoutez la Première ministre Elisabeth Borne.
Non, ça n'est plus négociable, la retraite à 64 ans et l'accélération de la réforme Touraine, c'est le compromis que nous avons proposé après avoir entendu les organisations patronales et syndicales, après avoir échangé avec les différents groupes parlementaires. Et c'est, je vous le dis, nécessaire pour assurer l'équilibre du système.
Elisabeth Borne ce matin sur France Info. Quant à Fabien Roussel, sur Europe 1 ce matin, il lance un appel à manifester. Car oui, 1 120 000 manifestants le 19, ce chiffre doit au moins être égalé pour rendre crédible la contestation. Alors l'appel de Fabien Roussel est lancé.
C'est vraiment une provocation à 48 heures de la manifestation du 31 janvier de mardi prochain. Eh bien, j'appelle les Français véritablement à se mobiliser et à montrer pendant une journée, tous, que l'on soit, encore une fois, dirigeant d'entreprise, artisan, salarié, ouvrier, élus locaux, une détermination sans faille, pacifique. Manifestons pacifiquement, en famille, faisons tomber les rideaux, fermons les mairies pour une journée. Et ça nous permettra de gagner 2 ans de vie.
Fabien Roussel au grand rendez-vous, CNews, Europe 1, Les Échos. Et nous inviterons tout à l'heure l'insoumis Carlos Martin Spilongo sur ce sujet. Dernière petite chose avant la pub, sachez que dès mercredi, toutes les restrictions concernant le Covid tombent, à savoir les mesures d'isolement. Ainsi, si vous êtes malade ou cas contact, vous n'aurez plus la période de 7 jours en dehors de votre travail. Et à ce titre, plus que jamais, respectons les gestes barrières. 18h11, une pause et dans un instant, le pape qui appelle à ne pas céder à la spirale de la violence au Proche-Orient. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneau.
Retour au journal à 18h12. Le pape François a eu des mots pour les morts au Proche-Orient de ces derniers jours, pour les 10 Palestiniens tués dans le raid antiterroriste de Tzahal à Jenin et pour les 7 Israéliens battus vendredi, le Saint-Père, lors de l'Angélus ce dimanche.
C'est avec une grande tristesse que j'entends les nouvelles de la Terre Sainte. En particulier la mort de 10 Palestiniens, dont une femme tuée lors d'actions militaires antiterroristes israéliennes en Palestine. Et ce qui s'est passé près de Jérusalem vendredi soir, lorsque 7 juifs israéliens ont été tués par un Palestinien et 3 ont été blessés alors qu'ils sortaient de la synagogue. La spirale de la mort qui grandit jour après jour éteint les rares lueurs de confiance qui existent entre les deux peuples.
Le pape François ce dimanche à Rome. Aux États-Unis, la police de Memphis a démantelé l'unité impliquée dans l'arrestation de Tyre Nichols, cet afro-américain passé à tabac, mort lors d'un contrôle de police par 5 policiers afro-américains eux aussi. Sa famille a salué une décision appropriée et proportionnelle à cette mort tragique. En Ukraine, ordre et contre-ordre, l'armée de Volodymyr Zelensky affirme avoir repoussé une attaque près du village de Blaodatné, situé dans la région de Donetsk. De son côté, le groupe paramilitaire russe Wagner assure aussi avoir pris le contrôle de cette localité. Le sport maintenant avec le tennis et l'épilogue de l'Open d'Australie. C'est finalement Djoko qui s'impose sur Tsitsipas en finale. 6-3-7-6-6, 3-7 qui démontre la supériorité du tennis du Serbe. Novak Djokovic remporte ainsi son 22e titre du Grand Chelem. Mais c'est aussi une victoire personnelle, sentimentale sur la façon dont il a été traité l'an dernier. Lucas Courtin à Melbourne, on s'en souvient, littéralement blacklisté parce qu'il n'avait pas été vacciné.
Oui, et comment l'oublier, Pierre, il y a un peu plus d'un an, Novak Djokovic était expulsé d'Australie parce qu'il n'était pas vacciné contre le Covid. Il lui était alors impossible de défendre son titre acquis en 2021. Mais cette année, il faisait son grand retour à Melbourne. Après un parcours solide du début jusqu'à la fin, le Joker, comme on le surnomme, a décroché un peu plus tôt dans la journée sa 10e couronne australienne en autant de finales disputées. C'est tout simplement un record dans le monde du tennis. Dans un match à sens unique, le Serbe sérieux et appliqué n'a laissé aucune chance à un Stefanos Tsitsipas impuissant sur le court. Et comme on pouvait s'en douter, après la balle de match, Djoko a complètement craqué dans les bras de sa famille. Un trop plein d'émotions pour lui. Écouter.
Quand j'ai rejoint mon box, je me suis émotionnellement effondré. Tout particulièrement quand j'ai enlacé ma mère et mon frère. Il m'a fallu une énorme énergie mentale pour vraiment rester présent, pour rester concentré, pour prendre les choses au jour le jour et vraiment voir jusqu'où je pouvais aller.
Avec ce 22e sacre majeur, Novak Djokovic rejoint donc Rafael Nadal au nombre de titres en Grand Chelem. Et en bonus, le Serbe récupérera sa place de numéro 1 mondial demain, avant de se projeter vers Roland-Garros prévu fin mai, où une belle bataille l'attend face à l'Espagnol.
Merci Lucas Courtin. Lucas Courtin du service des sports d'Europe 1. Le foot, 20e journée de Ligue 1. Grosse désillusion hier soir pour les Marseillais, qui n'ont fait qu'un match nul face à Monaco, un partout. Aujourd'hui, Nice l'a emporté sur Lille 1-0. Montpellier est allé battre Auxerre sur sa pelouse 2-0. 0-0 entre Clermont et Nantes. Toulouse est allé battre Strasbourg 2-1. Carton de Brest face à Angers 4-0. En ce moment, c'est Ajaccio qui affronte Lyon. Et ce soir, Paris Saint-Germain contre Reims. Nous retrouverons bien sûr Cyril de la Morinerie au parc à 19h. Le cinéma avec le festival du film de Gérard May qui fête sa 30e édition. Comme chaque année, recense les meilleurs films fantastiques du monde. Marie Jiquel.
De Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, à Julia Ducournau, Palme d'Or à Cannes pour Titane, Gérard May déniche depuis 30 ans les grands noms du 7e art. Bruno Barde, le directeur du festival, se souvient d'une séance terrifiante.
Scream de Wes Craven, le premier qui a été présenté ici, et ça a été un choc pour tout le monde.
Allô ?
Allô ?
Des métamorphoses dérangeantes, des doubles toxiques, une montagne mystérieuse. La sélection cette année promet son lot de frissons et présente également La Tour, le nouveau film de Guillaume Niclou.
La Tour, c'est un film très étonnant qui part sur un postulat qui est « il n'y a plus de dehors ».
Une édition marquée par l'évolution du genre fantastique selon le directeur.
Comme si les cinéastes se lassaient de la misère du monde et du sang qu'il y a sur tous les écrans, on va vers des choses plus étranges, plus poétiques, plus irrationnelles.
Clap de fin de Gérard May ce dimanche avec la cérémonie de remise des prix et la projection du dernier film d'un autre maître du fantastique, le réalisateur de Sixième Sens, Night Shyamalan.
Marie Jiquel du service culture d'Europe 1 et cinéma encore à 19h15 avec Thomas Salvador, réalisateur et premier rôle du film La Montagne sur vos écrans. Mercredi prochain, dépaysement garanti. La météo et une perturbation peu active traversent les deux tiers nord du pays, Valérie Darmon.
Effectivement, et en matinée, elle va toucher une large moitié nord en donnant des pluies faibles, mais un petit peu de neige jusqu'en plaine sur le Grand Est et la Franche-Comté. Attention aussi, les chaussées pourraient glisser des Ardennes au plateau Lorrain. Très rapidement, les éclaircies vont revenir sur les Hauts-de-France, la Normandie pour gagner l'Oise et le Val-d'Oise, ainsi que la Bretagne dans l'après-midi. Le temps faiblement perturbé va s'attarder sur le reste de la moitié nord et s'étendre jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne et le Lyonnais, là où il faisait beau ce dimanche. Sur les plaines du sud-ouest, entre la grisaille du matin et la dégradation annoncée pour la soirée, on observe de belles éclaircies. Sur les Pyrénées, les Alpes, les régions méditerranéennes, le soleil brille toute la journée. Et dans le sud-est, Mistral et Tramontagne se lèvent aussi et deviennent assez forts en soirée, avec des rafales encore à près de 100 km/h en basse vallée du Rhône. Du côté des températures, les maximales vont rester comprises entre 2 et 5 des frontières allemandes au Limousin, au nord de Rhône-Alpes et de l'Auvergne à Midi-Pyrénées. Elles seront en hausse ailleurs avec 6 à 10 degrés et 12 à 14 sur la Côte d'Azur.
Merci Valérie Darmon. Vous restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, je reçois le député LFI et NUPES du Val-d'Oise, Carlos Martins Bilongo. A tout de suite.